Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens co-présentés avec Atlantico. En 1834, Jean-Antoine Letrone, professeur au Collège de France et futur directeur de l'École des Chartes, publia un article dans la revue des Deux Mondes. Son titre est caractéristique de l'époque, le voici, « Des opinions cosmographiques des pères de l'Église rapprochées des doctrines philosophiques de la Grèce ». Dans cet article, Letrone oppose les fantasmes religieux du Moyen-Âge à l'âge de la raison, l'âge des Lumières. C'est très exactement de cette époque et de cet article qu'il faut dater l'image d'un Moyen-Âge obscurantiste, le Moyen-Âge et ses donjons noirs, le Moyen-Âge et ses paysans travaillant sous le joug sans pitié des seigneurs, le Moyen-Âge et ses croisades, préfiguration de la colonisation moderne, ce Moyen-Âge qui pensait que la terre était plate et que les femmes ne possédaient pas d'âme. Cette époque, bref, où enfin régnait l'Inquisition et donc l'interdiction de penser. Même si, depuis, la recherche a évolué sur toutes ces questions, certaines idées ont malgré tout la vie dure. Dans les conversations, afin d'exprimer le retour à un âge sombre, fait de violence et de bêtises, on parle ainsi de retour au Moyen-Âge. Storia Voce vous propose de découvrir un autre Moyen-Âge, le vrai visage du Moyen-Âge. Mais avant de commencer cette émission, je souhaiterais faire une annonce très rapide afin de pouvoir se développer. Storia Voce est devenue une association à but non lucratif. Vous pouvez soutenir notre association sur le site internet en donnant 10, 5 ou bien même simplement un petit euro via PayPal ou par virement bancaire. Cela ne vous prendra que quelques clics. Si chaque auditeur, je dis bien, si chaque auditeur donnait un seul petit euro, nous aurions la possibilité de faire 3 à 4 fois plus d'émissions chaque mois. Nous comptons donc sur vous. Notre association compte sur vous. Nicolas Veilparo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir au micro de Storia Voce. Nicolas Veilparo, vous venez de publier, de diriger plus exactement, deux ouvrages. Un ouvrage que l'on va dire plus grand public que l'autre, qui s'adresse à tout passionné d'histoire. Il s'intitule, je l'ai cité insidieusement dans mon introduction, « Le vrai visage du Moyen-Âge au-delà des idées reçues », 23 auteurs qui répondent à des idées reçues sur le Moyen-Âge. Et vous avez dirigé également avec Joël Chandelier et Catherine Verna aux éditions Presse universitaire de Vincennes, « Science et technique au Moyen-Âge », 12e et 15e siècle. Alors, nous allons d'abord présenter principalement au cours de cette émission cet ouvrage, Le vrai visage du Moyen-Âge, qui est paru aux éditions Vendémiaire. En commençant votre livre, j'ai été surpris, et j'allais dire les bras m'en sont tombés, de voir qu'aujourd'hui, il fallait se justifier sur des idées qui, pour moi, et de mon point de vue, étaient acquises, que l'on pouvait apprendre sur les bancs de la Sorbonne il y a 20 ans, 25 ans, 15 ans. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a une école historique, on va dire quasi idéologique, qui présente la France comme une invention, et je dis bien une invention, du 19e siècle. Et de tous vos auteurs, le premier d'entre eux, ce n'est pas n'importe quel auteur, c'est un des plus grands médiévistes de France, il s'agit de Philippe Contamine, qui doit justifier le fait que la France n'est pas du tout un anachronisme et que la France naît il y a plusieurs siècles, précisément aux temps médiévaux.
Oui, effectivement, je comprends votre surprise. Alors, quand nous avons, avec Véronique Salles, dirigé ce livre, Le vrai visage du Moyen-Âge, nous partions des idées reçues. Donc, en un premier temps, nous avons pensé aux idées reçues de longue durée. Vous avez mentionné la Terre plate, qui est une des plus belles idées reçues sur le Moyen-Âge, puisque pas un auteur médiéval n'a soutenu que la Terre était plate, donc c'est vraiment un mythe forgé pour l'essentiel, vous l'avez dit, au XIXe siècle. Et puis, il y avait toutes sortes d'autres idées reçues sur le Moyen-Âge. Mais l'idée que vous évoquez ici, et à laquelle est confronté Philippe Contamine, c'est une nouvelle idée reçue assez perverse parce qu'elle se présente comme une déconstruction. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'historiens, prétendant faire de la science alors qu'en fait ils font de l'idéologie dans certains cas, du marketing dans d'autres, décident que la France est un mythe récent et que au Moyen-Âge, ce n'est que par projection que l'on lui confère une réalité historique. Hein, donc c'est une idée elle-même qui aurait été le produit d'une volonté nationaliste de ainsi camper dans des temps immémoriaux une réalité qui était très récente, puisque même certains historiens disent même qu'elle daterait de 1918. Vous voyez, on en est là à l'heure actuelle. Donc il y a tout un courant qui ont plus d'idéologie que d'arguments scientifiques en réalité et qui développe cette idée-là, qui plaît beaucoup aux médias, il faut dire, en ce moment. Hein, c'est une idée très répandue, qui a tendance à se répandre, et c'est une sorte de nouvelle idée reçue qu'il est à la fois très facile d'attaquer d'un point de vue de la démonstration historique, ce à quoi s'emploie Philippe Contamine, et d'un autre côté, qui est dans le débat public difficile à combattre, parce qu'elle se présente elle-même comme un apport récent de l'historiographie, vous voyez. C'est un statut très particulier de cette idée reçue.
Alors Philippe Contamine présente... la naissance, au fond, de la nation, partant du principe, et là aussi, il montre, j'allais dire, toute la valeur de l'historien, parce qu'il y a des questions qui restent en débat. Est-ce que c'est la nation France qui a existé, par exemple, avant l'État, ou l'État qui a existé avant la nation? Et il présente à la fois l'exemple de l'Écosse, de l'Angleterre, et donc aussi de la France. Il y aurait une sorte, chronologiquement, l'Écosse et l'Angleterre précéderaient la France.
Oui, c'est ce qu'il explique. Hein. La France ne serait pas première dans ce processus. L'Angleterre et l'Écosse la précèdent. Il y avait en France des questions spécifiques d'hétérogénéité linguistique, de définition territoriale moins facile, peut-être, qui explique que le processus qui est, par certains côtés, très semblable à ce qu'on observe du côté de l'Écosse, par exemple, mais est un peu décalé dans le temps, même s'il y a des linéaments qu'on peut tirer, plus ou moins. Il faut bien évidemment penser que ce n'est pas un événement soudain qui crée la nation France. Ce sont des évolutions, avec des allées et des retours, qui conduisent à cette cristallisation de ce qu'on peut appeler, et Philippe Contamine n'hésite pas à employer ce terme, le sentiment national assez visible, déjà attesté, assez visible, notamment dans la guerre de Cent Ans, dans une hostilité à l'Angleterre qui rapproche de ce point de vue les Français des Écossais.
Dans ma perception, j'allais dire, quand je me rappelle de tous les cours que l'on a pu avoir, enfin que j'ai pu avoir personnellement en université, il y avait une sorte d'événement fondateur qui était Bouvines, le 27 juillet 1214, hein, si je ne me trompe. Donc, qui sont vraiment les prémices, mais la notion d'État, elle remonte au fond à Philippe le Bel.
Oui, alors, c'est effectivement, bon, il est vrai que Philippe Contamine, dans le cadre de l'interview, ne va pas rentrer dans tous les détails, ces détails-là. Mais vous évoquiez tout à l'heure la question de l'État. C'est intéressant. Philippe Contamine a une position qui n'est pas tout à fait la même que celle de Guenet, qui disait...
Bernard Guenet,
voilà, qui était un grand historien, qui attribuait une place majeure à l'État dans la fabrication de la nation. Contamine ne nie évidemment pas le rôle de l'État, mais il dit que pour que l'État ait pu réaliser cette cristallisation, il fallait que les populations soient réceptives à cette idée. C'est-à-dire que c'était un processus dialectique entre des aspirations des peuples, des sujets, et la volonté royale. Sinon, si la matière n'avait pas été prédisposée en quelque sorte à recevoir cette forme souhaitée par l'État, cette cristallisation autour de la nation France n'aurait pas pu se faire.
La royauté est donc au centre de toute cette nation France.
Elle joue un rôle effectivement central, et là, de ce point de vue, l'entretien avec Philippe Contamine fait écho à celui que nous a accordé Franck Collard sur la notion de roman national, puisque le roman national...
On va y revenir après, oui.
Voilà, le roman national, c'est au fond un récit en langue romane, d'où le nom roman, réalisé directement à la demande du roi, d'abord à l'abbaye de Saint-Denis, et qui montre bien ce rôle que joue l'État royal dans la cristallisation, le renforcement de cette conscience d'appartenir à une nation, nation France.
Alors, je reviens de manière générale à votre ouvrage. 23 auteurs, 23 spécialistes, 23 historiens qui ont leur domaine d'expertise. Et à chaque fois, c'est ce qui fait la valeur pédagogique de l'ouvrage. C'est que plutôt que d'avoir un texte brut, ce qui en soi a ses qualités, vous avez préféré jouer le jeu des questions et des réponses.
Oui, oui, oui. Alors, je dois dire qu'à l'origine, ce livre est né d'un cours que j'avais donné lorsque j'enseignais à l'université Paris-Est Créteil en première année. Il s'agissait de faire un cours à toutes sortes d'étudiants, y compris non-historiens, et donc il fallait que ces cours puissent attiser leur curiosité. Et donc j'avais choisi, pour aborder le Moyen-Âge, de partir des fausses idées. Et je me disais, en remontant les fausses idées, en expliquant la genèse de ces fausses idées et en rétablissant la vérité historique à la lumière de travaux les plus à jour, il me semblait que je donnais une bonne clé d'accès à la période médiévale. Et j'en ai parlé à Véronique Salles et nous avons dit qu'au fond, nous pouvions réaliser notre rêve, c'est d'aller poser des questions aux spécialistes. Parce qu'il y a eu effectivement d'autres ouvrages avant sur les idées reçues en histoire, mais là je dirais que l'intérêt c'est que nous sommes vraiment allés chercher l'information auprès de ceux qui sont les meilleurs spécialistes ou parmi les meilleurs spécialistes de chaque question. Et donc, d'une certaine manière, Véronique Salles et moi avons eu le plaisir de pouvoir avoir un cours particulier auprès de 23 spécialistes. Donc, nous sommes allés interroger, parfois chez eux d'ailleurs, parfois ce sont eux qui sont venus nous accorder cet entretien, et nous avons posé donc, ces questions. Alors évidemment, après, il y a eu un travail de réécriture, ce qui est normal, mais nous avons voulu garder cette spontanéité dans ce ton de la conversation, parce qu'il me semble que c'est une manière à la fois plaisante et assez claire d'aborder des problèmes qui sont parfois complexes.
Alors l'avantage, c'est qu'on peut picorer, j'allais dire, d'un chapitre à un autre. On n'est absolument pas obligé de prendre de la première page à la dernière page. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, à la fois, nous l'avons vu, hein, la question historiographique, mais aussi des questions comme l'histoire des sociétés, la question du servage, le droit de cuissage, les femmes. On en a déjà parlé dans une précédente émission avec Olivier Hahn, et puis des grands thèmes bien connus là aussi, la question des Templiers, la question de l'Inquisition, mais aussi la science. Et vous-même, vous êtes intéressé à la question de la science, mais au-delà de la science, de la raison et de la place de la raison dans les sociétés médiévales, en vous posant la question de la place de la magie et de la sorcellerie.
Oui, alors il se trouve que effectivement, nous avons consacré beaucoup d'entretiens autour du problème du savoir. Et cela s'explique. Dans la mesure où nous avons une vision obscure du Moyen-Âge, ou les contemporains, ou depuis longtemps, on a une vision obscure du Moyen-Âge, c'est le domaine du savoir qui subit le plus, qui pâtit le plus de cette vision obscure. Et donc, il nous semblait que c'était dans le domaine du savoir qu'il fallait rectifier le plus la vision que nous avions du Moyen-Âge. Pour ma part, vous l'avez dit, je me suis intéressé à la question, moi je suis spécialiste à la fois de l'histoire des rapports entre science et magie et de la science en général, et donc je me suis posé la question de la raison scientifique au Moyen-Âge, puisque le plus souvent, on nous représente le Moyen-Âge comme le lieu de l'enfance et échevelé. Alors parfois c'est pour le louer au nom d'un romantisme un peu décadent, parfois au contraire on considère que c'est le lieu de l'obscurantisme le plus complet.
De la croyance, voire de la crédulité.
Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'on nous donne comme exemple caractéristique du Moyen-Âge, faites l'essai, posez la question sur le Moyen-Âge, une fois que votre interlocuteur aura parlé des châteaux, ce sont les sorcières qui vont arriver, très rapidement. Or, c'est amusant, parce que la grande chasse aux sorcières, c'est un phénomène essentiellement moderne, de l'époque moderne. L'apparition, c'est le deuxième quart du XVe siècle, donc on est vraiment à l'extrême fin du Moyen-Âge. Avant, il y a des sorcières, comme dans toutes les civilisations, des hommes ou des femmes, d'ailleurs des sorciers ou des sorcières, auxquels on attribue tel ou tel pouvoir, mais ça reste dans des proportions habituelle de la croyance populaire. Là où on passe avec la chasse sorcière, c'est ce que les anglo-saxons appellent la witchcraft, c'est-à-dire la croyance que des sorcières complotent contre la chrétienté et se réunissent dans des sabbats, en se rendant à ces sabbats sur des balais volants, et qu'elles rendent un culte au diable pour comploter contre la chrétienté en s'adonnant à d'abominables orgies, en mangeant de la chair de bébé, etc. Ça, c'est un fantasme qui a été créé, du reste, plutôt, semble-t-il, par les tribunaux laïcs, avant d'être relayé par les tribunaux ecclésiastiques. Et je le répète, deuxième quart du XVe siècle, l'arc alpin et essentiellement la grande chasse aux sorcières, c'est l'époque moderne. Donc c'était quand même extraordinaire que l'on accole au Moyen-Âge quelque chose qui en fait appartient essentiellement à une période postérieure.
Est-ce que l'image que l'on a également, hein, qui est au fond une des grandes images que l'on retient du Moyen-Âge, c'est de voir Jeanne d'Arc brûler. Est-ce qu'on brûlait facilement les femmes à cette époque pour sorcellerie ou pour magie? Et d'ailleurs, je crois que vous faites une différence entre sorcellerie et magie.
Ah oui, alors il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on brûlait souvent? Alors là, c'est une première question. On brûle les hérétiques. C'est-à-dire que l'Église confie aux bras séculiers les hérétiques. Mais, comme l'a montré André Vaucher, que nous sommes allés interroger sur l'Inquisition et les hérétiques, il ne s'agit pas de faire éloge de l'Inquisition, hein, entendez-moi bien, mais en fait, le but de l'inquisiteur n'est pas d'exterminer l'hérétique. Le but de l'inquisiteur est
de le sauver.
Et de ramener l'hérétique dans le giron de l'Église. Donc, en fait, à part quelques cas exceptionnels, en temps normal, si je puis dire, de l'Inquisition, ben, on estime qu'il n'y a pas plus de 2 à 3% de condamnations aux bras séculiers. 2 à 3% parmi les hérétiques arrêtés. Ce qui veut dire que la plupart d'entre eux sont condamnés soit à porter des signes infamants, soit à une peine de prison. Alors on dit quelquefois une prison perpétuelle, mais en réalité on sait qu'au bout de quelques années, ils sont libérés. Je ne suis pas en train de minimiser l'inconfort que devait être
de trouver
devant l'inquisiteur, mais c'est très éloigné, si vous voulez, de cette image. En fait, comme le dit André Vaucher, on projette, si vous voulez, les grands excès de l'Inquisition espagnole, encore une fois, plutôt l'époque moderne ou l'extrême fin du Moyen-Âge, sur l'Inquisition du Moyen-Âge, et alors que ce sont deux réalités différentes. Vous parliez de la magie et de la sorcellerie, oui, ce sont des réalités différentes. La magie sous ses diverses formes, vous avez la magie, il existe une magie populaire, pratique diverses et variées, voilà.
Oui.
Et puis une magie savante, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs courants, on a conservé des textes. Il y a eu des condamnations de la magie au début du XIVe siècle, on a assimilé certaines pratiques magiques à de l'hérésie, mais il faut dire que globalement, l'Inquisition s'est plutôt intéressée aux hérétiques qu'à la magie au Moyen-Âge.
Alors, il y a un terme aussi très important dans votre texte, c'est l'adjectif occulte. Occulte, nous avons une perception, j'allais dire, du monde occulte comme quelque chose d'impénétrable, de mystérieux, de un peu diabolique. Or, l'occulte, à l'époque médiévale, c'est absolument pas ça.
Alors, le terme occultus, caché, a de nombreux sens. Mais par exemple, dans le domaine de la science, la propriété occulte n'a en elle-même rien de magique. C'est simplement la plupart des substances au Moyen-Âge, on est dans un modèle aristotélicien à partir du XIIIe siècle, sont censées agir en vertu de leurs qualités premières, le chaud, le froid, le sec, l'humide, ou l'agencement de ces qualités. Et puis, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est les phénomènes notamment que nous appellerions aujourd'hui électromagnétiques. Par exemple, pourquoi l'aimant attire le fer? Et donc, on va dire simplement que l'aimant a la propriété occulte d'attirer le fer. Hein? Donc, on donne un nom, on conceptualise, si vous voulez, ce pouvoir. Ce qui en soi n'a rien de magique ou de démoniaque. Voilà.
Alors, venons-en à la raison. Vous avez toute une partie de votre texte qui est consacrée à la scolastique. Et c'est vrai que la scolastique, l'étude de Saint Thomas, les techniques de compréhension de Saint Thomas, les méthodes, sa perception ont longtemps, j'allais dire depuis un peu moins d'un siècle, ont été remises en cause. même dans l'Église, au fond. Pourtant, on y revient, et surtout, notre perception de la scolastique, la perception négative que l'on peut avoir de la scolastique, eh bien, est là aussi une erreur de jugement sur ce qu'était réellement cette scolastique pendant le Moyen-Âge.
Oui, vous avez raison. Et je pense qu'on confond sophistique et scolastique. La sophistique étant l'usage, disons, l'usage ratiocinant de la raison. Hein. En fait, la scolastique, au Moyen-Âge, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a deux images. Soit celle d'une déraison, d'une crédulité, d'une crédulité enflammée, soit celle d'une ratiocination. Hein. Et la scolastique est dans la deuxième catégorie. Or, quand on regarde le travail des scolastiques, soit chez les théologiens ou chez les philosophes, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de tout expliquer par la raison. Cet effort de poser, dans la scolastique, c'est la forme de pensée qui existe dans les écoles, c'est à la fois un mode de raisonnement et un mode d'exposition. Donc la plupart du temps, la réflexion scolastique classique, vous avez la thèse, ensuite vous présentez les arguments pour ou contre, puis les arguments contre ou pour, selon l'ordre que vous choisissez, puis vous argumentez, et puis vous concluez, vous répondez à la partie que vous voulez réfuter, soit la partie pro, soit la partie contra. Ce mode d'investigation est un mode d'investigation systématique qui vise en quelque sorte à expliquer tout le monde par la raison. Et dans le domaine de la science, je parlerai entre, disons, le milieu du XIIIe et les premières décennies du XIVe siècle d'un véritable moment rationaliste, si vous voulez. À la rigueur, on pourrait dire que les savants médiévaux de cette époque ont plus eu un usage excessif de la raison qu'un usage déficient.
Je vous cite, la science scolastique a plus souffert d'un excès d'optimisme dans le pouvoir de la raison que d'obscurantisme.
Oui, vraiment, je maintiens.
Alors, quand on parle de scolastique, on pense bien évidemment à Aristote. Et Aristote, bon, il y a un débat sur lequel je ne vais pas revenir, sur les sources, comment Aristote est venu dans le monde médiéval européen. En revanche, il a souvent été attribué, j'allais dire, au canal de l'islam, au canal arabe, au fond. Et ce monde arabe, vous lui consacrez deux textes. Il y a deux textes sur le sujet. Le premier, c'est évidemment Averroès, qui est considéré comme un modèle de tolérance. Et puis, le deuxième, c'est un texte sur Al-Andalus, l'Andalousie actuelle, j'allais dire, notre perception a souvent été de dire que c'était ce qu'on appellerait un monde du vivre ensemble, comme l'on dit aujourd'hui, où régnait la paix entre les différentes composantes religieuses. Or, il n'en est rien.
Oui, nous sommes allés interroger Gabriel Martinez-Gros, qui est un des meilleurs connaisseurs d'Al-Andalus, donc de l'Espagne musulmane. Et là, nous avons affaire à un mythe à forte connotation idéologique. Et c'est un mythe qui, comme le montre Gabriel Martinez-Gros, est vraiment totalement faux, c'est-à-dire totalement dépourvu de fondement. Je le dis parce que certains essaient de dire « oui, il faut nuancer ». Non, il ne faut pas nuancer, c'est vraiment faux. Comme le dit Gabriel Martinez-Gros, de toutes les terres sous domination musulmane au Moyen-Âge, peut-être la moins tolérante était-elle précisément à l'Andalous. Il explique notamment que dans la plupart des terres musulmanes, il existait plusieurs écoles juridiques au sein de l'islam, et en Al-Andalus, une seule, le malikisme, sous les Omeyyades. Donc déjà, même, il n'y avait aucun débat possible au sein même de l'islam. Donc, c'est vraiment une terre qui n'était absolument pas tolérante. La seule chose, c'est qu'on a construit l'idée d'une Espagne musulmane tolérante assez tôt, en réalité. Gabriel Martinez-Gros fait remonter ça au XVIIIe, siècle, c'est l'époque des Lumières, où, devant les excès notamment de l'Inquisition espagnole, on y revient toujours, on a voulu créer un contre-modèle, c'est-à-dire cette Espagne catholique du début de l'époque moderne, de la fin du Moyen-Âge étant semblant particulièrement intolérante, on a construit en miroir le mythe d'une période où il y aurait eu une grande tolérance, avec une mauvaise interprétation de la notion de tolérance, puisque, en fait, les Occidentaux comprenaient mal, ont mal compris le système des DIMI. Qu'est-ce que c'est que le système des DIMI? Bon, il faut, comme le montre Gabriel Martinez-Gros, se représenter que lorsque l'islam a conquis la rive sud de la Méditerranée, et eh bien, elle s'est trouvée confrontée à des populations qui, en majorité, n'étaient pas musulmanes. Donc, deux solutions. Soit elle les exterminait, mais ce n'était pas du tout rentable, soit eh bien, elle les dominait en leur permettant, dans certaines limites, de pratiquer leur culte. C'était le choix qui était fait.
Ce n'était pas rentable parce qu'il, c'est ce qu'il explique, il y avait un problème démographique de l'islam et l'occupant, en quelque sorte, qui est devenu le dominateur, avait besoin de mains qui soient des mains chrétiennes.
Et oui, et puis le système de la dhimmi est avantageux puisque les dhimmi, donc essentiellement les chrétiens et les juifs, en échange de ce droit de pratiquer leur religion, versent un impôt. Mmh. Un impôt spécifique.
Alors, l'autre chapitre dont je vous parlais, c'est la tolérance d'Averroès. Et vous avez interrogé, cette fois, un autre historien, Ziadbou Akl.
Oui, Ziadbou Akl est un grand spécialiste de la pensée juridique d'Averroès. Et je dirais que l'image tolérante d'Al-Andalus se projette sur Averroès. Donc Averroès, ce grand philosophe du XIIe siècle, comme l'explique Ziadbou Akl, parler de tolérance pour Averroès, c'est en fait poser une question anhistorique, en réalité, décalée par rapport à la réalité historique dans laquelle il a vécu.
Parce que la perception de la tolérance aujourd'hui et la perception de la tolérance à l'époque n'a strictement rien à voir.
Oui, comme le dit Gabriel Martinez-Gros, la tolérance aujourd'hui, on la pense dans le cadre de l'égalité. Alors que cette tolérance, avec beaucoup de guillemets, des sociétés musulmanes, c'est une tolérance dans la domination. On tolère, on supporte, on tolère. Ça ne veut pas dire qu'on reste avec, on tolère simplement. Voilà. Et chez Averroès, c'est intéressant parce qu'il y a quelque temps, je me souviens, une députée écologiste avait dit, au moment des attentats, il faut absolument aller enseigner Averroès dans les banlieues. Alors, je pense qu'Averroès, et Ziadbou Akl ne me contredirait pas ce point, est un très grand philosophe, pas seulement d'ailleurs du monde islamique, de l'humanité. Hein. C'est un des commentateurs d'Aristote les plus brillants. Les latins l'ont appelé commentator, c'est un très grand esprit, un homme qui a énormément, effectivement, développé le rationalisme philosophique. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il serait tolérant? Comme le dit Ziadbou Akl, il ne s'agit pas de dire qu'il est particulièrement tolérant ou particulièrement intolérant. On manque d'éléments pour en juger, on dit tolérant et intolérant par rapport à quoi? Et le problème de la tolérance, ou le problème du dialogue interreligieux, ce n'est pas le problème d'Averroès, si vous voulez. Donc c'est là aussi, le film de la fin des années 90 de Youssef Chahine, Le Destin, qui est un film, qui nous dit, ce film-là nous en dit plus sur la montée de l'islamisme en Égypte à la fin des années 90 que sur la réalité d'Al-Andalus. C'est-à-dire que c'est vraiment... truffé d'anachronisme, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a dû être l'Averroès historique, qui ne se posait tout simplement pas les questions que nous voulons à tout prix que nous voulons à tout prix lui prêter. Voilà, cette question de la tolérance ne fait pas partie de son horizon, horizon d'interrogation. Et là, je pense que, quelles que soient les sensibilités, tous les spécialistes d'Averroès seraient d'accord sur ce point, si vous voulez.
Alors, d'où viennent, au fond, Nicolas Veilparo, d'où viennent toutes ces idées reçues? Je citais en introduction comme une source de ces idées reçues, qui est au fond une source, on va dire, anticléricale. Mais il n'y a pas que l'anticléricalisme du 19e siècle qui redécouvre les sciences ou qui découvre en partie les sciences, puisque ces idées reçues concernent aussi les sociétés, elles concernent également la politique, elles concernent également le monde militaire.
Oui, c'est les idées reçues, alors elles ont plusieurs strates. L'anticléricalisme joue un rôle important. Mais nous le disions aussi, le romantisme aussi a pu vouloir valoriser le Moyen-Âge, mais en faussant un peu l'image. Vous voyez, ça peut, après tout, ce que Dominique Barthélemy nous rapporte sur les chevaliers, il nous dit que ces chevaliers sont un peu trop roses, un petit peu, hein, selon lui. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette strate, et puis chaque époque trouve des motifs idéologiques, des préoccupations qui font qu'elle se croit autorisée à repeindre le Moyen-Âge selon ses couleurs et ses préoccupations. Hein, je ne vous fais pas un dessin, mais vous imaginez bien que sur ces questions de tolérance d'Al-Andalus, aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée qui trouve que c'est confortable de s'accrocher à ce mythe. Mmh.
Mmh. Oui, on est victime en quelque sorte aussi de notre actualité.
Oui. Mmh. Oui, et le Moyen-Âge devient une sorte de terrain de jeu de l'actualité. C'est quelque chose que je trouve très préoccupant, du reste, cette instrumentalisation de l'histoire. L'histoire n'est pas à notre disposition, en quelque sorte. Nous ne sommes pas là pour jouer avec les morts. J'allais dire, même pour être plus frappant, nous ne sommes pas là pour jouer avec les cadavres. Je pense qu'un travail d'historien, on n'est pas là pour s'amuser à faire de la déconstruction parce que ça fait chic. Si on doit défaire des mythes, on le fait selon des procédures sérieuses. Je pense que l'historien doit avoir comme idée régulatrice, comme idéal, d'approcher la vérité historique. Je ne dis pas qu'il va toujours y arriver, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que lui-même n'a pas toujours des préjugés. Nous en avons tous, certainement, que certaines idées que nous avons nous poussent à délaisser certains témoignages plutôt que d'autres. Ça, nous le savons. Mais au moins, nous devons nous fixer cette idée régulatrice de rétablir la vérité historique. Ça paraît un truisme, si vous voulez. Mais il règne parfois, dans certaines études historiques, une telle confusion mentale, qui consiste à dire que l'histoire doit être utile pour telle ou telle cause, pour telle ou telle affaire, que je trouve ça déroutant et même effrayant, si vous voulez. L'histoire n'est pas un terrain de jeu, et le Moyen-Âge, par sa définition originelle, c'est-à-dire cette période intermédiaire coincée entre les lumières supposées de l'Antiquité et les lumières de l'époque moderne, est le terrain de jeu préféré de ces idées reçues et de ces instrumentalisations.
Alors je reviendrai sur l'idée de roman national tout à l'heure, mais avant je souhaiterais évoquer votre ouvrage « Science et technique au Moyen-Âge », donc qui est le fruit d'un colloque donc au Moyen-Âge 12e-15e siècle, dirigé par Joël Chandelier, Catherine Vernat et donc vous-même, paru aux presses universitaires de Vincennes. Alors le titre, pour celui qui n'est pas, connaisseur, « Science et technique au Moyen-Âge » paraît au fond un titre, bateau. Et pourtant, c'est très important, parce que la science et la technique, ce sont deux choses particulières, et on va dire qu'elles apparaissent comme séparées à l'époque du Moyen-Âge. Il y a la science d'un côté et la technique de l'autre.
Oui, c'est vrai que depuis la révolution industrielle, nous associons assez naturellement science et technique. Et si vous regardez nombre d'associations, de sociétés savantes, d'institutions, vous trouverez très souvent science et technique. Or, cette association ne va pas de soi pour le Moyen-Âge. Elle ne va pas de soi pour le Moyen-Âge, et je dirais que beaucoup médiévistes, du reste, seraient eux-mêmes surpris par cette association. Lorsque Catherine Vernat, Joël Chandelier et moi avons parlé du projet, nous avons parfois essuyé quelques sarcasmes de la part de médiévistes qui voyaient cela comme un anachronisme, comme une projection d'une association qui a un sens dans une société industrielle sur une période qui ne l'est pas. Et ça, je crois, effectivement, ça part d'un fait, à savoir que la science et la technique, a priori, n'ont pas les mêmes acteurs. La science, c'est le monde savant. À partir du XIIIe, c'est essentiellement le monde de l'université. La technique, c'est le monde des hommes de l'art, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas passées par les universités. Et donc, il y a une dichotomie à la fois sociale et intellectuelle autour de cette question. Mais je dois dire, mais vous allez peut-être tout à l'heure m'interroger là-dessus, que nous ne sommes pas les premiers à poser cette question. Et avant nous, nous avons eu un illustre précurseur.
Guy Baugeois,
voilà. Alors, Guy Baugeois est un très grand historien de la science médiévale. C'est en France le refondateur, après la guerre, de l'histoire de la science médiévale. Donc il est né, je crois, en 1925, il est mort en 2007. Et c'est vraiment c'est un chartiste qui s'est interrogé sur la science médiévale dans son ensemble, avec une prédilection pour les mathématiques, pour la science dans la péninsule ibérique, et précisément pour ses rapports entre théorie et pratique, entre science et technique. Et c'est un peu à la lumière de ses travaux, de ses articles très importants, Guy Beaujon est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, mais je dis c'est une figure majeure, si vous voulez. C'est une figure majeure qui devrait être connue au même titre que Jacques Le Goff. Et c'est en partant de ces interrogations, des problèmes qu'il avait soulevés, pas forcément résolus, que nous avons décidé, Joël Chandelier, Catherine Vernat et moi, de réunir dans un colloque international des historiens des sciences du Moyen-Âge et des historiens des techniques du Moyen-Âge. Eh bien, vous savez, ça n'était pas si fréquent. C'était une des premières fois que l'on avait rassemblé, en obligeant les uns et les autres à faire l'effort d'aller
vers l'autre.
Voilà.
Vous créez des ponts. C'est une histoire en friche, donc. C'est une histoire où beaucoup est à faire.
Beaucoup est à faire. Le livre apporte énormément d'éléments. Alors, on ne prétend pas avoir couvert tout, bien évidemment. Il y a des domaines qui n'ont pas été abordés. Mais nous avons essayé d'ouvrir quelques pistes autour de quelques thèmes.
Alors, la première partie est consacrée juste précisément au croisement entre science et technique. La deuxième partie, ce que vous appelez la mise en forme du concret. Là, nous sommes dans des choses extrêmement scientifiques, mais précisément concrètes. On parle à la fois des métaux, on parle des techniques de construction, des techniques de teinturerie. Il y a une troisième partie qui est consacrée à la représentation et à la mesure du monde. J'allais dire, c'est peut-être celle que l'on voit, surtout dans un monde d'images comme le nôtre, comme la plus évidente, parce que des images de cette époque sont ces fameuses cartes, ces fameux portulans. La Piero Falchetta, notamment, dans Sciences et techniques de la cartographie, montre à la fois les deux techniques de la map monde et la technique des cartes de navigation, en expliquant que les cartes de navigation vont porter en quelque sorte la précision. Plus la technique de la navigation va se développer, plus les cartes seront précises.
Oui, c'est ça. Alors, Pietro Falchetta, qui est un grand spécialiste des cartes médiévales et du début de la Renaissance, a montré donc l'existence d'une part de ces map-mondes qui sont très anciennes, hein, puisqu'on en trouve dès le IIIe siècle, qui définissent ce qu'il appelle plutôt un espace intellectuel. Et puis, vous le disiez, effectivement, ces cartes nautiques qui introduisent, on a les premières qu'on possède fin XIIIe, mais on pense qu'il en existait avant, qui introduisent cette idée de mesurabilité. Mesurabilité.
La première map monde, c'est le IIIe siècle, ce que dit
Pierre Balfe.
Oui. Alors, il y a aussi la médecine, bien évidemment, et il y a un texte étonnant sur ce que l'on appelle aujourd'hui les alicaments et sur la consommation de fruits. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une forme de richesse agricole beaucoup plus importante que l'idée reçue laisse le croire, mais en fait on consommait assez peu de fruits.
Alors oui, l'article de Marilyn Nicou, qui est une grande spécialiste des régimes de santé et des relations entre médecine et alimentation au Moyen-Âge, était un article riche, foisonnant, qui est très, très subtil. Et c'est intéressant parce que là aussi, elle pose la question des rapports entre science et technique en regardant un discours médical qui, pendant très longtemps, voit plutôt le fruit comme quelque chose de dangereux, et puis une pratique qui se développe, c'est-à-dire le fait que, surtout en Italie, on aime les fruits. C'est considéré comme un élément de choix. Et donc, il y a cette tension entre ce discours médical et cette pratique, et cette adaptation autour de cette adaptation, cette précision du discours médical pour décrire le fruit, cette adaptation et cette idée aussi que le fruit, bon, était comme on l'avait dit, un alicament, un poétique comme médicament, donc il fallait être précis dans le détail pour en faire le meilleur usage possible.
Mmh. Alors, une des grandes idées qui ressort de ce colloque, c'est que aujourd'hui, nous sommes habitués à ce qu'il y ait des domaines de spécialité, voire d'hyperspécialisation, ce qui peut, d'un certain point de vue, être dommage parce que, au fond, on aime davantage les esprits complets. Mais à l'époque, par exemple, la médecine était très liée à la philosophie. Donc, il y avait une forme de transversalité, ce qu'on appellerait aujourd'hui une transversalité, qui était une évidence.
Oui, alors si je peux revenir au vrai visage du Moyen-Âge, puisque Daniel Jacquard nous a accordé un entretien sur la médecine, Daniel Jacquard dit précisément ce que vous dites, c'est que peut-être l'un des principaux apports du Moyen-Âge dans le domaine de la médecine, c'est d'avoir affirmé l'idée que le médecin était un savant, était un lettré. De fait, après les traductions du grec et de l'arabe au XIIe siècle, le XIIIe siècle voit naître donc les universités, cette fédération d'écoles autonomes que décrit Jacques Verger dans l'entretien qu'il nous a accordé, et au sein de ces universités, il y avait des facultés de médecine. Donc, la médecine a acquis ce rôle, cette visibilité scientifique, à la fois d'un point de vue intellectuel, puisqu'il y avait toute l'armature des textes essentiellement de Galien et du galénisme, Galien, le grand médecin grec, deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, qui est l'autorité par excellence de la médecine, et en même temps, l'institution qui donnait une assise à cette médecine et qui contrôlait l'accès à la profession médicale. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, par exemple à Paris, mais c'est le cas dans d'autres universités, le médecin, la médecine, la faculté de médecine est une faculté supérieure. C'est-à-dire que avant de devenir médecin, il faut passer par la faculté des arts. Or, la faculté des arts, la faculté des arts libéraux, hein, ce ne sont pas des arts plastiques, c'est les arts libéraux, c'est la faculté des arts libéraux, à partir, on le sait, par exemple, quand une grande université comme Paris, dès les années 1240-1250, c'est en fait une faculté de philosophie aristotélicienne. Mmh. Donc, par définition, les médecins sont d'abord des philosophes. Mmh.
Je voudrais terminer, Nicolas Veilparo, par le roman national, parce que on l'a vu notamment au cours du débat des présidentielles, une historienne de lycée offrir à un candidat de droite un livre sur le roman national en expliquant que le roman national était une invention donc du 19e siècle. Le roman national, vous le citiez tout à l'heure, l'idée même de roman est une vieille idée médiévale, et puisque l'historien travaille d'abord sur des textes, eh bien, on voit que le roman de France, le roman des rois, les chroniques, donnent cette conscience nationale.
Oui, et je pense que c'est la grande idée que développe Franck Collard, qui est un spécialiste notamment de l'historiographie médiévale, c'est que ce roman national, qui a été écrit à la demande des rois, d'abord dans l'abbaye de Saint-Denis, qui s'appelle roman parce que c'est écrit en langue vulgaire, là aussi, hein, c'est-à-dire en français, en roman si vous voulez. Et ce roman national fait partie de l'identité nationale, du sentiment national, de l'histoire nationale. C'est-à-dire que, comme le dit Franck Collard, on voudrait faire l'histoire comme si cette dimension culturelle, intellectuelle, cette dimension de représentation n'existait pas, n'était pas en soi quelque chose qui a une valeur historique. Alors, ce que dit Franck Collard, qui là prend une position presque civique, si vous voulez, il dit, naturellement, il faut, comme à l'égard de tout récit historique, faire la part des choses, mais il faut comprendre que l'existence même de ce récit dit quelque chose sur la précocité du sentiment national français.
Et on peut même, ce qu'il fait, mettre en regard histoire nationale avec histoire universelle. L'universalité étant celle de l'Église, l'histoire nationale étant celle des rois de France.
Des rois de France, oui. C'est une histoire très clairement royale, ça, indéniablement.
Nicolas Veille-Parot, merci beaucoup.
Moi qui vous remercie.
Je rappelle donc les deux titres de votre ouvrage. Donc, je recommande chaudement à tous nos auditeurs Le vrai visage du Moyen-Âge, tous les amoureux d'histoire, de vérité historique, eh bien, doivent avoir dans leur bibliothèque cet ouvrage qui est simple d'accès, mais qui donne énormément de précision sur ce qu'est cette époque riche, que sont les temps médiévaux, donc le vrai visage du Moyen-Âge, au-delà des idées reçues, paru aux éditions Vendémiaire. Et alors, plus technique, hein, cette fois, plus universitaire, on va dire pour d'abord un public de chercheurs et d'étudiants, Science et technique au Moyen-Âge, 12e, 15e siècle, un ouvrage paru aux presses universitaires de Vincennes. Je remercie encore Georges à la technique. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à nous soutenir sur notre site internet, sur la page d'accueil en haut à droite, soutenez Storia Voce. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel grand entretien.